Dans leur série « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent cette année, en 6 émissions, l'évocation des rapports entre la solidarité sociale et le monde protestant nîmois. Aujourd'hui, nous consacrerons notre dernière émission à l'étude de l'évolution du système coopératif. Et c'est toujours Gustav Mahler qui nous accompagnera de sa deuxième symphonie.
Créé en 1918, le Conseil supérieur de la coopération, le CSC, représente le mouvement coopératif français. Organisme tripartite, il défend et promeut les principes fondamentaux de la coopération auprès du public et des autorités, et est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou son représentant.
Suite aux grandes grèves de 1919, la CGT se rapproche de la Fédération nationale des coopératives de consommation, ainsi que de celle des fonctionnaires et des techniciens de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, pour fonder en 1920 le Conseil économique du travail, avec pour objectif de nationaliser des industries. Gide en est le vice-président. Nous l'écoutons. Le CET considère qu'une entreprise est nationalisée lorsqu'elle n'est plus exploitée qu'en fonction des besoins de la communauté et qu'elle n'a d'autre but que de procurer aux consommateurs le maximum d'utilité et d'économie. Les capitalistes actionnaires y seraient remplacés par les représentants du travail et par ceux de la consommation.
À 72 ans, Gide s'attache à défendre le mouvement coopératif contre les attaques marxistes, contestant lutte des classes et matérialisme historique. Idéalisme contre idéologie. Voilà ce qu'il dit. Cette conception matérialiste paraît exclure du marxisme toute préoccupation morale, toute sentimentalité, et réduire la question sociale à la question du ventre. Il fonde, en 1921, la Revue des études coopératives où il met en avant la notion de justice distributive. Le vrai combat est de revaloriser les salaires par rapport aux revenus des actionnaires. Il faut aussi développer le droit du travail, des services sociaux, un impôt progressif sur les revenus. Quand la CGT éclate en 1922, le CET est dissous. Il renaîtra en 1925 par le Conseil national économique, dont Gide sera également membre.
En 1920, Charles Gide entre au Collège de France sur une chaire financée par le mouvement coopératif. Ses cours, très suivis, abordent des sujets variés dont, en 1924, Fourier, précurseur de la coopération, ou en 1927, l'école de Nîmes, ou encore en 1932, la solidarité, et ce sera son dernier cours.
Tandis qu'Auguste Fabre, retiré de tout engagement sociopolitique et passionné désormais de spiritisme, meurt en décembre 1922 à Genève, Édouard de Boave meurt à Nîmes au numéro 8 de l'avenue Feuchère le 5 juin 1923. Gide rend hommage à ses amis. Du premier, il dira
« Favre a formulé avec précision les directives du mouvement coopératif français. Il resta une grande figure de l'école de Nîmes. Il dédaignait les congrès, les discours, les discussions, les journaux. Et il pensait, non sans raison d'ailleurs, qu'avec tout cela, on fait d'assez pauvres besognes. »
Et du second, il dira
« Il avait le don de parler aux ouvriers absolument comme s'il était l'un des leurs. Aussitôt qu'il était entré, il créait une atmosphère de bonne grâce et de cordialité qui désarmait les cœurs les plus rebelles. Il n'a jamais cherché à agrandir sa fortune et même l'a vu diminuer sans souci, car il n'en tirait aucune vanité et aucune jouissance personnelle.
L'Association protestante pour l'étude pratique des questions sociales choisit Gide comme président en 1922, tandis qu'il devient vice-président de la Ligue des droits de l'homme en 1927, et la même année organise un dernier congrès sur la coopération à Nîmes.
Malgré ses articles hostiles, il avait été invité en URSS en automne 1923. Si une organisation coopérative intégrale lui paraît maintenant possible, le communisme lui semble toujours un peu trop rouge. Soutien fervent du sionisme, il réalise en 1925 un déplacement en Palestine mandataire pour l'inauguration de l'Université hébraïque de Jérusalem.
Gide s'éteint le 12 mars 1932 à Paris, au numéro 2 rue de Caen, dans le 16e arrondissement, mais en ayant choisi d'être inhumé au cimetière protestant de Nîmes. Nîmes qui lui donnera une petite rue dans le nouveau quartier des Amoureux. La même année, l'Abeille deviendra Union des coopérateurs du Gard.
L'État social s'instaurera par des lois partielles successives. En 1928, elle permet aux salariés de droit privé avec un contrat de travail de bénéficier d'une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. En 1930, on permet aux agriculteurs et d'autres professions de bénéficier d'un régime particulier. On envisage de rendre l'assurance obligatoire avec monopole de l'État. En 1932, apparaissent des caisses d'allocations familiales financées par versements patronaux.
Si au Royaume-Uni, le rapport Beveridge jette les grands principes de l'unification de la sécurité sociale en 1942, en France, Pierre Larocque et Alexandre Parodi, qui portent en 1940 un projet de nationalisation générale, sont évincés par Pétain. Leur projet ne ressort qu'en 1945, avec le Conseil national de la Résistance et un plan complet de sécurité sociale pour assurer à tous les citoyens les moyens d'existence, dans les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Ambroise Croizat insistera sur le caractère anticapitaliste des institutions de socialisation du salaire.
Partisan ni du socialisme révolutionnaire, ni de l'étatisme, l'école de Nîmes aura abordé plusieurs problèmes sociaux très actuels. Vieillissement de la population, création de la législation sociale, en particulier celle des retraites. Dans une vision rousseauiste, un peu naïve, Gide tient le concept de solidarisme pour une loi naturelle, en cela ni bonne ni mauvaise, qui lie les hommes entre eux et les conduit à s'associer. Dans l'infinie diversité présente et à venir des formes d'association qui concrétisent, au niveau des institutions, la loi de la solidarité. La coopérative de consommation lui paraît plus prometteuse pour son époque par sa fonction éducative, notamment d'initiation à la démocratie économique. Charles Gide a cru qu'elle contribuerait à l'abolition du salariat et du régime du profit, supprimant ainsi l'origine de la plupart des conflits.
Charles Gide démontre pourtant que la compréhension protestante de la foi n'a pas fait que nourrir l'esprit du capitalisme, comme le soutient Max Weber. Célestin Bouglet le décrira comme un mélancolique apôtre qui a humanisé l'économie politique selon trois principes. Défendre le consommateur, c'est défendre l'intérêt général, sans privilégier ni groupe ni classe. Aider d'abord les faibles et les opprimés, et l'éducation est vectrice de progrès et de démocratie.
Pour finir cette émission, nous évoquerons une aventure nîmoise singulière, s'inscrivant elle aussi dans le mouvement coopératif. C'est celle des cheminots castors de Beausoleil. On sait l'importance des cheminots à Nîmes durant le XXe siècle. En juin 1930, un petit groupe de cheminots, souvent chrétiens, crée la mutuelle familiale des cheminots de France, insistant sur l'aspect non lucratif et la spécificité cheminote. Les premiers statuts de cette mutuelle prévoient pour les adhérents une participation aux soins médicaux et pharmaceutiques, aux frais d'hospitalisation et d'opération. Elle organise aussi, pour ses adhérents, des cures en sanatorium et préventorium, encourage les soins à donner aux enfants et vient en aide à la famille en cas de décès. Originaire de Saint-Quentin-la-Poterie, Raymond Dizier, mort en 1972, fonde à Nîmes une clinique mutualiste. Survient la guerre et l'on sait le rôle des cheminots dans la résistance gardoise.
En France, près d'une maison sur cinq a été détruite ou endommagée. Dans ce contexte particulier de l'après-guerre marqué par la résistance, un élan de solidarité apparaît. Des particuliers se regroupent pour construire ensemble leur maison. Avec ce mouvement dit des castors, des agriculteurs, des cheminots, des ouvriers de grosses firmes deviennent autoconstructeurs. Une réponse militante de différents mouvements politiques et sociaux à la crise du logement, tant chez les communistes que chez les chrétiens sociaux. L'apport coopératif, variable selon les cas, reste essentiel dans l'organisation du mouvement. Il est fondé, comme les cottages sociaux, sur le principe de l'apport-travail effectué pendant les heures de loisirs pour pallier l'incapacité des associés à financer l'achat ou la construction des logements. On se regroupe pour construire ensemble des quartiers entiers et les constructeurs ignorent s'ils travaillent pour leur maison, car celle-ci était tirée au sort une fois terminée.
Ce principe de l'apport-travail est reconnu en mai 1949 par une décision interministérielle, reconstruction, urbanisme et finances. Le prêt est garanti par le travail collectif qui sert d'apport personnel. La période est favorable, car les salaires sont indexés sur l'inflation et les taux d'intérêt bas. Le travail est comptabilisé par un responsable de l'association et on risque l'exclusion en cas de quota d'heures non respectées. Travail épuisant, en plus de la semaine, et beaucoup d'adhérents abandonnent. Il y eut plusieurs expériences de castors en France. À Bayonne, à Pessac, sur l'initiative d'un prêtre ouvrier, en 1948, à Montreuil, par le PC. En 1950, est fondée l'Union nationale des castors, UNC, pour coordonner l'action des différents groupements, les conseiller administrativement, juridiquement, financièrement et techniquement, et les représentants et les représenter auprès des administrations des organismes compétents. Elle se transforme en Confédération française des unions de castors, la CFUC, en 1954.
Ces mouvements sont connus à Nîmes dans la communauté solidaire cheminote. Vers 1950, deux amis, Émile Michel, dessinateur industriel, et Aimé Longuet de Vert-du-Gard, qui est mort en 1980, secrétaire local de l'Union mutualiste des cheminots, issu de la mutuelle familiale des cheminots de France, veulent construire une maison ensemble. Ils contactent Raymond Dizier, futur président de l'Association des castors mutualistes cheminots. Plusieurs cheminots, chrétiens, non cégétistes, qui habitaient des petits logements vers la route d'Uzès, se regroupent alors enfin afin d'acheter à crédit le grand terrain agricole de 1,7 hectare de M. Dombre, derrière le grand séminaire, le long de l'ancienne route d'Arles, la route Salomon-Reynard depuis 1934, vers l'ancien stand de tir et au nord de l'actuelle rue de Barcelone. Il fonde un syndicat pour créer un lotissement de 54 lots autour de la future place de la Mutualité. Le maire et ses filleaux acceptent en 1951 s'ils tracent eux-mêmes la rue de Barcelone pour amener l'eau et le gaz à partir de la rue de Bouillargues, déjà urbanisée dans les années 30, le lotissement Rocher et Église de 1937 à 47.
Avec leur centre mutuel d'achat, les castors s'organisent donc pour bénéficier de ristournes. Mais réticente, la SNCF leur fait payer une partie du transport des matériaux venus de Marseille. Les premières maisons sont conçues par Émile Michel, 100 mètres carrés, avec mur commun par économie et garage, bien que sans voiture, mais pour bricoler. Chauffage central avec chaudière à charbon, une salle de douche, un bac à laver pour le linge, des WC à l'intérieur, le tout à l'égout, une cuisine avec évier, des grandes fenêtres, la possibilité d'aménager une troisième chambre, un jardin avec des arbres fruitiers. Toutes différentes dans le détail, mais avec des jardins qui communiquent. Seul le gros œuvre est confié à des entreprises. Les épouses assument la logistique du quotidien, malgré des familles souvent nombreuses. Elles organisent les repas communs du week-end sur les chantiers.
Disponible en 1953, les maisons sont acceptées par le service d'urbanisme et la Cigale, une épicerie, s'installe dans l'ancienne maison d'ombre. On partage avec les voisins les premiers éléments de confort, machine à laver et téléphone. Avec la CAF, les épouses mettent en place des cours de gymnastique, des leçons de piano, des consultations pour les nourrissons. Le 10 avril 1954 est inauguré le quartier Béhousse-Léou avec un deuxième lotissement entre les rues d'Alger et Ernest-Bruxelles. Un troisième sera construit au-delà de la rue Salomon-Reynard vers la rue Bergson. Dizier déclare alors
« Ces castors sont de véritables pionniers de la justice sociale et de paix. Ce lotissement est le fruit de leur volonté et de leur persévérance dans l'effort. Ils saluent avec force ce jour où la quiétude sera dans le cœur des hommes et la fraternité universelle. » Une vie festive et communautaire s'y développe, et la tornade qui balaye le quartier en 1956 ne décourage pas les castors qui refont leur toit.
Avec le lancement du programme des grands ensembles, le gouvernement Edgar Faure privilégie l'habitat collectif ou locatif et abroge finalement le principe de l'apport-travail. La CFUC est dissoute en mai 1955. Le mouvement castor s'orientera dès lors autour de la construction à titre individuel avec différents services bénévoles délivrés par Internet, conseils de rénovation ou construction aux particuliers, entretien d'un réseau de fournisseurs et de professionnels, organisation de chantiers participatifs, groupement d'achat de matériaux.
Il participe ainsi de l'économie solidaire. Le mouvement coopératif, en particulier Nîmois, aura bien contribué à faire évoluer des mentalités avec toutes ces expériences d'entraide qui étaient la base du mouvement, qu'elles soient plus ou moins étatisées ou même récupérées par des firmes à but lucratif. De belles formules d'intentions fortement teintées de christianisme social en sont sorties, telle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.